Les voyages, dit-on, forment la jeunesse. Chez Sylvain Tesson, il semble la prolonger. Comment expliquer autrement qu'à 46 ans, il ait gardé son âme et sa silhouette d'adolescent, rêvant sans cesse d'aventures. Fils du journaliste Philippe Tesson et d'une mère médecin spécialiste des maladies tropicales, il a très tôt le goût de l'ailleurs qu'il imagine forcément meilleur. Ancien étudiant en géographie, il préfère de loin les travaux pratiques à la théorie.
Bonjour, aujourd'hui on va faire un peu d'orientation dans les Alpes avec une simple carte et une boussole.
Après les Alpes, viendront rapidement l'Himalaya, les steppes d'Asie centrale ou encore la Sibérie, où il passe 6 mois reclus dans une cabane à 5 jours de marche du village le plus proche. Loin de tout et de tous, il a rendez-vous avec lui-même.
Un ermitage, aussi court soit-il, est une forme d'exercice spirituel et l'envie de se retrancher dans les forêts participe aussi de ce désir de se déshabiller, de revenir à l'essentiel, de dégraisser sa vie et d'essayer de tuer en soi ce qui nous rend malheureux.
Écolo avant l'heure, il observe, admire et jouit de la nature. Ses voyages sont en réalité des épopées d'un autre temps. Depuis la Sibérie, il parcourra 6000 km jusqu'au golfe du Bengale sur les traces d'anciens évadés du goulag. L'exercice lui plaît, il récidivera, d'autant que ses livres enchantent la critique. À son actif, le prix Goncourt de la Nouvelle ou encore le prix Médicis des essais. Mais à force de défis, Sylvain Tesson finit par trébucher. Bravant les lois de la gravité sur les toits d'une maison, lui qui se croyait invincible chute. 10 mètres plus bas, plongé dans le coma, il frôle le dernier voyage. Une partie de son visage est paralysée, une oreille fait des siennes, mais ses longs mois d'hospitalisation se transforment en nouvelle aventure.
Quand on est à l'hôpital et qu'on est un profond amoureux des livres, on prend ces journées de stabilité, d'immobilité, de silence, finalement pour une bénédiction. Parce que moi, j'ai pu avaler quasiment un livre par jour, un roman, un essai, de la poésie. C'était merveilleux.
L'accident le conforte paradoxalement dans sa soif de mouvement. Comme si son flirt avec la mort avait redoublé sa soif de vivre. À force de mêler ses pas à ceux des grands hommes, lui aussi devient un personnage romanesque. Son destin exceptionnel est adapté au cinéma, celui d'un éternel gamin qui semble bien décidé à n'en faire qu'à sa tête.
N'en jetons plus, Sylvain Tesson. Mais tout de même, nous connaissons des jeunes gens qui disent « Plus tard, je veux faire Sylvain Tesson ». Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Un guide spirituel, un gourou ?
J'espère pas.
Un petit peu.
J'espère pas, c'est une manière d'enterrement.
Oui, et d'ailleurs, de muséification.
Oui, c'est ça, ce reportage ressemblait d'ailleurs à une oraison funèbre que je vous remercie d'avoir exprimé aimablement.
Plus étrangement, vous dites « je suis zadiste de zone affectée à la dissimulation ». Ça veut dire quoi être zadiste dans votre acception ?
Le zadiste, dans mon acception, oui, n'est pas une zone à détruire, parce que je hais la destruction. Oui. Je ne crois pas du tout, comme le comment il s'appelle, ce philosophe qui a un nom de cordonnier allemand, qui croit à la destruction créatrice, Schumpeter. Je ne crois pas que la destruction du tout soit créatrice, je ne crois que rien de bon ne sort du chaos. Je n'aime pas le désordre, donc je ne suis pas un zadiste,
contre,
sauf si le dé est le...
dissimulation.
Et la dissimulation.
Sécession,
alors là, oui.
Fuite.
Oui. Oui, le chemin de traverse. C'est-à-dire, en fait, quand il y a une situation qui ne convient pas, moi, je n'ai pas envie ni de la détruire, ni de chercher des responsables autres que moi-même. Si le monde ne me convient pas, je vais voir ce que disait Rilke au jeune poète dans les lettres à un jeune poète, où il conseille au jeune poète de changer sa vision du monde plutôt que d'essayer de changer le monde. Et à ce moment-là, je prends un chemin de traverse, une échappée, je m'enfuis. Ça peut être une cabane, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un beau visage avec lequel on a une conversation. Ce sont des escaliers de service par lesquels on se dissimule sans nuire.
Vincent.
Vous cherchez la beauté du monde et vous avez aussi décrit, notamment dans Les Chemins Noirs, peut-être la laideur du quotidien, ces entrées de ville avec des ronds-points, ces grandes zones commerciales, ces lieux d'ailleurs qui ont été pendant l'année 2018, à la fin de cette année 2018, les lieux où on a vu des gilets jaunes tourner. Est-ce que vous pensez que l'environnement quotidien médiocre et qui ne donne pas les plaisirs esthétiques de la nature participe du mal-être de la classe moyenne occidentale telle qu'on a pu le voir ?
Je le crois profondément. Je crois qu'on ne parle jamais de cette modalité-là qui est la modalité de la beauté, de l'amitié de la vie, des petites choses de la vie. Enfin, après, on peut trouver de multiples énumérations pour exprimer cela. Mettons la France de Robert Doisneau, la France de Hoyard, enfin toutes ces choses-là, on l'entend souvent dire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça ne veut pas dire qu'on est nostalgique d'une époque, ça veut dire qu'on est nostalgique d'un mode de vie, qui est le mode de vie de la simplicité, de l'amitié des choses, de cette époque où le langage, le verbe qui a été profondément ravagé par des expériences pédagogiques multiples, n'existe plus et donc ne permet plus la conversation, donc ne permet plus l'amitié de la vie.
Vous dites que ce n'est pas de la nostalgie, mais est-ce qu'on n'est pas malgré tout dans le « c'était mieux avant » parce que vous semblez regretter quelque chose qui a existé et qui nous dépossède.
Eh bien peut-être.
Oui.
Eh bien peut-être. Faut-il l'avouer ? Faut-il, faut-il pour autant venir à récipiscence ? Eh bien peut-être. Je vais vous dire, je crois oui que je suis nostalgique, absolument. Oui. Je suis nostalgique de quelque chose que je n'ai pas connu, donc c'est toute l'absurdité de la nostalgie, mais je suis nostalgique d'une époque qui, si elle a existé, aurait pu peut-être être plus poétique que celle dans laquelle je vis.
Sylvain Tesson, Ulysse était-il déjà nostalgique ? Voulait rentrer chez lui, rentrer voir sa femme, Pénélope, rentrer dans son palais. Est-ce que c'était déjà la nostalgie avant la nostalgie ?
Mais c'est toute la dimension...
L'Ulysse d'Homère.
Oui, l'Ulysse d'Homère, l'Ulysse de l'Odyssée. C'est toute la teneur, la dimension de la conversation que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a la nostalgie d'un retour à quelque chose qui existait, qui était établi et qu'il faut rétablir, qu'il faut restaurer. Et puis il y a la tentation de l'aventure. Et moi, je crois que c'est un penchant,
un
c'est un tiraillement.
Pendulaire.
Oui, mais qui est très ordinaire, qui est très banal et que tout le monde ressent en lui. Il y a un écartèlement. Faut-il être un homme au foyer paisiblement installé dans les pénates de Pénélope ou aller s'envoyer des magiciennes sur les îles désertes ? Je comprends très bien qu'on hésite.
Certes. Le géographe que vous êtes, que vous avez été, le regard qu'il porte sur la France dont on évoque depuis plusieurs mois les fractures territoriales, cette France des métropoles confrontée à cette France rurale qui se sent enclavée, abandonnée, on découvre quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, une France abandonnée, il n'y a plus de chemin de fer, les gens du coup deviennent aliénés à leur voiture et en souffrent de manière économique et pas seulement spirituelle. Rituel aussi, sans doute.
Oui, je crois que alors tout le monde connaît très bien cette fracture qui a été formidablement formulée par Guilly, la France périphérique, la France centrale, les tenants de la, ceux qui ont bénéficié de la mondialisation et ceux qui sont les dindons de la farce. Ok, je ne sais pas si cette lecture des choses qui est simple, donc qui marche,
trop simple,
je ne sais
simpliste.
Pas si elle n'est pas un peu plus compliquée que ça. Je crois que il y a quelque chose qu'on mesure peut-être assez mal. Et qui va vous sembler encore plus simpliste que le simple, qu'une pensée simple, c'est qu'il y a une forme de profonde dépoétisation de la vie par l'espèce de technostructure qui impose un mode de vie managérial et une culture du management et qui fait de nos vies des vies d'entreprise. Et ça a été perçu par une intuition géniale par Tocqueville dans les débuts de la démocratie en Amérique où il explique que la conduite des grandes masses humaines, démocratiques, allait imposer un recul des libertés de détail. Qu'est-ce que c'est que la liberté de détail ? C'est la liberté d'aller et venir, liberté de boire un peu trop, liberté de faire l'imbécile, et la liberté de parler en dehors des limites sémantiques imposées par une technocratie qui nous dit ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, là où on doit se promener verbalement et là où on ne doit pas déraper. Je crois que ces libertés de détail, on ne mesure pas combien leur abandon a créé de souffrance.
Sylvain Tesson, l'homme dont la devise est « Contente-toi du monde ». Alors, une réaction, Sylvain Tesson ?
Oui, plusieurs. D'abord, ces trois énergumènes qui ont fait le choix d'une forme de recours aux forêts et de retour à la nature disent tous la même chose, c'est qu'ils sont venus chercher un style.
Un art de vivre.
Oui, l'homme, c'est le style. Et leur art de vivre, c'est la liberté, une forme d'autonomie. Et puis une réconciliation profonde, enfin plus que ça, parce que le mot est idiot, mais des noces, c'est de même qu'il y a un mariage, des noces avec le réel. C'est-à-dire que toutes ces espèces de laborantins excités, frankensteiniens, qui nous promettent l'augmentation de la réalité, feraient peut-être mieux de la vénérer et d'essayer de la préserver. Ce sont des conservateurs, ces gens-là, mais des conservateurs qui conservent ce qu'il y a de plus beau, les structures d'ordonnancement magnifiques de la nature. Et en cela, ils sont... Ils sont grecs. D'ailleurs, il y en a un qui est pâtre. Il pourrait être dans des collines virgiliennes avec son flutio et quelques déesses et quelques nymphètes. Qu'est-ce que c'est que le rapport homérique à la nature ? C'est la vénération de l'équilibre, de l'harmonie et des grandes structures d'ordre qui fondent le monde.
Est-ce qu'il faut conserver des espaces naturels libres de toute emprise humaine ? Est-ce qu'il faut en arriver là ?
Oui, il y a ce grand débat, dialectique dans le monde des écologistes. Faut-il que la nature soit l'environnement de l'homme, qui lui permet de batifoler en paix, ou faut-il sanctuariser des espaces dans lesquels il ne rentre plus? Étant donné que nous arrivons à une pression démographique tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité, de 9 milliards d'êtres humains...
11 milliards 8, en 2100.
En 2030, en 2100, nous serons davantage que 10. Tous ces hommes seront connectés, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de vouloir tous prétendre à des modes de vie, à très juste titre d'ailleurs, des modes de vie accessibles et qui correspondront à ceux qui ont les modes de vie les plus coûtants. Eh bien, étant donné qu'il y aura cette pression démographique, on peut imaginer qu'on devra passer pour la sauvegarde des espaces à la santé.
C'est pas déjà trop tard? On n'a pas déjà, l'homme a déjà pas colonisé tous les grands espaces?
Je sais pas. Non, je suis pas suffisamment expert, comme on dit aujourd'hui, pour signifier l'impossibilité de savoir quoi que ce soit. Je ne suis pas assez expert. Ce sont les spécialistes de l'invérifiable, les experts. Moi, je suis pas un expert, donc je peux pas vous dire absolument si on a dépassé des points de non-retour. Je crois que il y aura des endroits à sanctuariser absolument, car il s'avère, et c'est quelque chose qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui, il s'avère que ça serait tout de même très affreux que la prospérité de l'homme, la prospérité des êtres humains, la prospérité des foyers, la prospérité des fins de mois, passe par la dégradation absolue de son environnement. Quoi. Ça fonderait l'absurdité de la vie. S'il faut vivre mieux, mais sur des décombres, c'est tout de même dommage.
Alors ce que vous dites, c'est que l'homme doit réapprendre à habiter le monde. Est-ce qu'il doit le faire par la culture, par l'éducation, ou par les lois, comme on le demande certains écologistes, avec quelque chose de plus coercitif au fait?
Ça, c'est une question qui s'applique à tous les champs. Moi, je ne la connais pas, évidemment. Moi, j'ai une intention et puis un constat. Mon intention, ça serait évidemment que chacun, en relisant Virgile et en relisant les Géorgiques, se reconsidère la nature, retrouve le lien antique avec les lois de la campagne, retrouve l'amitié. Mais enfin, voilà, le monde industrialisé, accéléré, massifié, hypertrophié, ce sont les grandes modalités de la modernité, et connecté avec l'homme qui a la possibilité d'agir sur l'infiniment petit, l'infiniment grand, la molécule et le gène, c'est-à-dire qui a la possibilité de reconstruire complètement le poème initial, comment voulez-vous qu'on puisse simplement, par la diffusion de la pensée virgilienne dans les écoles, réussir à régler le problème? Non, probablement faudra-t-il des lois coercitives.
Pour préserver le poème initial, Sylvain Tesson, faudra-t-il une stagnation démographique ou une décroissance démographique? Ça a été longtemps tabou. C'est matière à une nouvelle réflexion, cette notion de décroissance démographique.
Ça y est, le GIEC, la Fédération des experts sur le climat, des climatologues, a pour la première fois établi, enfin officialisé la corrélation entre l'explosion démographique et les bouleversements climatiques. Des écologistes le font depuis René Dumont en 1960. On les prenait pour des vieux fous malthusiens. C'est évidemment un problème qui est très délicat, puisqu'on touche au fondamental absolu de l'humanité, qui est la propagation de soi-même. Enfin, de toute façon, l'humanisme, qu'est-ce que c'est? C'est un syndicalisme. Quand on est cheminot, on défend les cheminots. Quand on est gilet jaune, on défend les gilets jaunes. Quand on est humain, on défend les hommes. Et quand on est léopard, on défend les léopardistes.
On va en parler tout à l'heure des léopards. Syndicalisme. Alors, mais 2018 a été aussi une année géopolitique, une année charnière pour deux pays que vous connaissez bien, surtout la Russie, mais aussi la Syrie. 7 ans après le déclenchement de la guerre civile qui a supplicié la Syrie, Vladimir Poutine s'est imposé comme l'allié indispensable de Bachar el-Assad. Poutine est-il un faiseur de paix ou un allié militaire opportuniste? Un rappel des... Sylvain Tesson, vous n'êtes pas géopolitologue, vous êtes poète comme Gérard Chalian qu'on a vu il y a quelques instants, mais un commentaire sur ces débats à propos de la Russie et du rôle de la Russie en Syrie, entre autres?
Ces débats que vous venez de nous diffuser ont eu lieu le dernier au mois de juillet, c'est-à-dire 6 mois avant nos retrouvailles ce soir. Entre-temps, la situation a changé. Elle s'est plutôt rétablie territorialement du point de vue de la souveraineté de Bachar el-Assad dans le pays. Ça nous ramène à notre impuissance et à notre inaction, à nous autres Européens de la coalition occidentale dans les années 2015, au moment où Poutine, que l'on soit favorable à ces frappes ou qu'on les déconsidère, au moment où il nous a enjoint, nous-mêmes, d'agir. Alors que nous étions encore dans notre espèce